Vous écoutez France Culture.
Et à 9h05 sur France Culture, on retrouve Emmanuel Laurentin.
Bonjour Hervé Gardette, bonjour Hervé Gardette, merci pour ce journal. Prochain journal de la rédaction à 12h30, présenté par Antoine Mercier, mais tout de suite à 9h05, la Fabrique de l'Histoire. Troisième temps de notre histoire de la rumeur dans la Fabrique de l'Histoire. Après avoir approché lundi avec Étienne Lacour de la Société Générale de Presse, la difficulté de trier les informations privilégiées et les rumeurs quand on a un lectorat payant cher la possibilité de disposer avant tout le monde d'informations essentielles. Après avoir hier, donc avec notre documentaire, tourné autour de ce trou noir financier qui est la rumeur boursière courant sur les parquets du Palais Brongniart à la grande époque ou sur le net aujourd'hui, et bien aujourd'hui justement, nous allons nous intéresser à la rumeur de catastrophe en nous approchant avec des archives, comme tous les mercredis désormais, des rumeurs de catastrophe et en particulier des rumeurs qui se développent lors des inondations. Nous traiterons donc de l'inondation de Nîmes en 1988, puis de celle de la Somme en 2001, la première concernée des morts, nombreux qui auraient été cachés par les autorités, c'est ce qu'on croyait à l'époque, la seconde, la volonté de Paris de se protéger des inondations en les transférant justement sur la Somme. Nous étudierons ces rumeurs de catastrophe en compagnie de René Domergue, professeur de sciences économique et sociale à Nîmes et auteur de La Rumeur de Nîmes, un travail sociologique mené avec ses élèves de lycée en 88, 89 et 98, et avec Pascal Froissart, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 Saint-Denis et auteur de La Rumeur, Histoire et Fantasmes chez Belin.
Les informations, Luc Lemonnier.
7 morts, mais c'est provisoire, des millions de francs de dégâts et c'est une estimation. La ville de Nîmes est ce matin dans l'attente. L'attente des chiffres, l'attente des bilans dont on dit qu'ils devraient s'alourdir. Hier, ce fut en effet la débâcle. Des centaines de voitures emportées, des pylônes arrachés, des maisons noyées. Jamais Nîmes n'avait connu tel déluge. Daniel Morin a rencontré une Nîmoise. Elle a eu très peur.
Jardin de la Fontaine. Et là, il y a eu de l'eau jusque presque au plafond de nos maisons. Ça fait donc du 2,50 m. Mon plafond n'est pas très élevé. Et j'ai failli être noyée parce que j'étais... Il y a eu une sorte de raz-de-marée. Il y avait un courant... Voilà, il y avait ça qui courait dans une rue bien étroite et c'est monté jusqu'en haut du plafond. J'ai un mètre debout. J'avais la salle de bain et la chambre au premier, quoi, et j'ai attendu que ça se passe.
Vous avez vraiment eu peur, très honnêtement, vous avez vraiment eu peur.
Ah oui, mais j'ai dit, ça y est, j'exagère pas, hein, mais j'ai dit, je vais mourir. D'ailleurs, j'ai pensé mourir noyée parce que ma tête a touché au plafond, il y avait la vague qui arrivait.
Au lendemain donc d'inondations sans précédent, dont les images rappelaient plus une mousson du tiers-monde qu'un simple orage, les recherches eh bien se poursuivent. Un travail intensif mené par plusieurs centaines de sauveteurs. Les responsables de la préfecture du département du Gard craignent qu'avec le retrait des eaux et le déblaiement des ruelles, de nouveaux cadavres soient découverts. La plupart des grands axes sont toutefois maintenant dégagés, de même que les habitations, presque toutes réalimentées en électricité. Mais plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sont toujours privés de téléphone. Des camions spéciaux de sapeurs-pompiers et des antennes médicales se mettent en place ce matin. Les sauveteurs commencent à inspecter les amas de voitures enchevêtrées ainsi que les parkings souterrains. Au nombre des réactions, celle de Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place. C'est une vraie catastrophe, a-t-il dit, mais il faut que les gens se rassurent. Par ailleurs, deux numéros de téléphone ont été ouverts au public pour répondre aux demandes urgentes. Le 66 23 00 51 et le 66 23 00 54, précédé du 16, si vous habitez Paris.
Radio France, Nîmes.
Comme les rumeurs courent déjà la ville, faisant état de plusieurs dizaines de morts et de centaines de disparus, le procureur de la République sera amené à faire une mise au point. De la même façon, la préfecture du Gard, par la voix de Nicole Klein, directeur de cabinet, s'exprime officiellement.
On en reste toujours au même nombre de victimes, 8. 66 voitures ont été sorties de l'eau de du jardin de la Fontaine. Il n'y avait aucune victime à l'intérieur. Trois quarts des voitures avaient sur leur tableau de bord la clé. Ça veut dire que les gens sont partis, roulaient, ont vu l'eau arriver, ont quitté leur véhicule. Mais pour l'instant, J'espère que ça durera. On n'a trouvé aucun corps. On en reste au bilan 8 morts. Et on ne cache rien. Il n'y a aucun corps caché dans les sous-sols de la préfecture. Pour nous, les corps sont les gens, les corps à la morgue. 8 morts. Alors, il y en aura peut-être quelques-uns d'autres qu'on n'a pas encore trouvés. Des caves, des parkings, c'est possible. Mais pour l'instant, je dis haut et fort, parce que je sais que les rumeurs courent en ville, on a 8 morts. Plus les 2 victimes de l'accident d'hélicoptère. Bon, c'est un peu particulier, mais c'est évidemment un peu dans le cas de cette catastrophe.
Inutile de le cacher, c'est vrai. Des bruits ont circulé en ville. On a murmuré. Dizaines de morts, centaines de disparus. Pourquoi ? Christian Liger, historien et écrivain, a étudié le phénomène de la rumeur. Peut-on parler de rumeur nîmoise ? D'où vient-elle ? Faut-il aller jusqu'à avancer la notion de pulsion de mort ? À ce sujet, dans une émission spéciale sur Radio France Nîmes, Christian Liger donnait un élément de réponse.
On dirait que c'est l'inconscient de la ville qui surgit avec la pulsion de mort, effectivement. Nous avons, c'est ce qui me frappe à Nîmes d'ailleurs, c'est qu'on a, on est toujours une ville extrême, je l'ai dit plusieurs fois, on est une ville pas ordinaire. Hein. Et alors, quand on a une pulsion de vie, on se paie une feria, c'est-à-dire la plus grande fête d'Europe, et puis la mise à mort des taureaux, etc. Mmh. Et quand on a une pulsion de mort, eh bien, on voit des cadavres partout, on les fait naître s'il le faut, on les suscite, on les... J'allais dire un mot affreux, j'allais dire qu'on les espère presque, hein, comme une sorte de grand exorcisme, oui. Nous ne sommes pas une ville ordinaire. Je dois dire que moi-même, et peut-être vous-même, je ne sais pas, le premier lundi soir, quand une personne digne de foi, intellectuelle, professeur, m'a dit, tu sais, je viens de voir un policier au commissariat qui m'a dit, il y a déjà 35 morts dénombrés et 200 disparus, ben moi, lundi soir, les pieds encore dans l'eau, je l'ai cru. Si ça venait d'un commissaire et d'un homme de bonne foi qui lui me le disait. Bon, j'ai cru à la rumeur moi-même pendant, je sais pas, quelques heures.
Radio France, Nîmes.
Nous sommes donc maintenant avec Pascal Froissart, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Paris 8, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, et avec Amélie Meffre, qui a préparé avec nous cette semaine, et en particulier ce choix d'archives, ainsi qu'avec René Domergue, qui est en duplex avec nous depuis France Bleu, Gare Lozère, que nous remercions de l'avoir accueilli dans ses studios. Vous êtes enseignant en sciences économiques et sociales. Vous avez fait des recherches avec vos élèves qui ont donné lieu à un livre publié chez Edisud, La rumeur de Nîmes, qui travaillait justement sur cette rumeur dont on vient entendre les échos avec, grâce aux archives qui nous ont été fournies justement par France Bleu, Gare Lozère. Et puis vous avez fait des recherches également à titre personnel ensuite sur les questions de la rumeur dans votre région et pas simplement cette rumeur de catastrophe. Ce que vous avez entendu vous rappelle quoi et vous suggère quoi, René Domergue ?
Déjà, le chiffre 7 morts m'a fait tilt parce que il semble que l'émission concernée était à peine quelques heures après, voyons, ça devait être dans la matinée du 3 octobre 1988, quelque chose comme ça, ou vers midi ou l'après-midi, en fait, c'était...
Pardon, l'archive, oui. René Demer, date du 4 octobre. Donc,
du 4 octobre, voilà. Un jour après. Et alors, on annonce déjà, un jour après, on annonce 7 morts. Et on explique qu'il y a d'énormes dégâts dans les rues de Nîmes, mm-hmm. qu'il y a des centaines de voitures qui ont été emportées. Et le bilan risque de s'alourdir.
Oui, la crainte de voir, de découvrir de nouveaux cadavres,
voilà.
Dit-on.
Alors, à partir de là, on va comprendre que les Nîmoines auront du mal à imaginer qu'il va y avoir seulement 2 morts de plus. Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un jeu qui s'établit entre le discours, la discussion que vous avez extrêmement bien analysé avec vos élèves, justement, pour ce livre, à la fois pendant les événements, un an après, et puis 10 ans plus tard. Le discours, disons, dans la rue de Nîmes, et puis également les médias qui relaient nationalement ce qui s'est passé. Et donc, évidemment, tout cela a des échos sur place.
Ah ben, les médias sont la cible privilégiée. On va parler des élèves, on pourrait parler aussi des enseignants, parce que oui. Ce n'est pas qu'une question d'adolescents. Pour en terminer avec les adultes, je vais simplement dire que lorsque le lycée ouvre, donc une semaine après, le lundi 10 octobre, mm-hmm. en salle des profs, premièrement, on ne parlait que de cela.
Alors, il faut rappeler que ce lycée Montory a été détruit en partie. Enfin, il n'a pas été détruit, mais disons qu'il y a eu une inondation aussi dans ce lycée. C'est pour ça qu'il a fermé.
Disons que le lycée était rue du Cadoreau, qu'on appelle désormais rue Georges Pompidou. Le Cadoreau, vous savez, ce sont ces ouèdes. qui collecte l'eau des collines. Mmh. Il avait été recouvert, bitumé, et avec une canalisation, mais qui était sous-dimensionnée, comme la plupart des canalisations de la ville, pour un événement pareil. Et donc, on va dire que le Cadoreau avait repris son cours.
Absolument.
Voilà, et il avait dévasté, pas le lycée, non, le devant du lycée, il y avait, je me souviens encore, d'un cratère dans lequel on trouvait, je crois, une voiture quand je suis arrivé, mais on pouvait en faire rentrer quatre. Et la loge du concierge, le petit, on va dire, un F4, avait été emporté. Enfin, c'était impressionnant.
Et donc, quand le lycée rouvre, le 10 octobre, eh bien, 8 jours après, enfin, une semaine après le drame, justement, j'imagine que tout le monde ne parle que de ça, y compris dans la salle des professeurs.
Voilà. Alors, c'est déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la salle des professeurs, non seulement on ne parle que de cela, mais on considère que tout le monde ment. Enfin, les autorités mentent et les médias mentent. Et je n'ai vu qu'un collègue, alors peut-être, bien sûr, il y en avait-il d'autres qui, pour ne pas se situer hors du groupe, se taisaient. Mais enfin, je n'ai vu qu'une collègue affirmer qu'elle croyait le chiffre avancé par les autorités. Et d'ailleurs, je me souviens encore qu'elle disait « Moi, je crois toujours ce que disent les autorités. » Bon, ce qui n'est pas un argument très fort. Hein.
Amélie voilà. Neffre.
Et vous, René Demergue, dans la salle des professeurs ?
Ce jour-là, enfin, moi, j'ai fait des études d'économie principalement et un peu de sociologie. J'ai renforcé ma sociologie par la suite. Donc, je suis totalement naïf en termes d'analyse des rumeurs. Hein. Alors, c'est ce qui explique d'ailleurs l'originalité de notre démarche, puisqu'on est dans la situation de gens qui n'y connaissent rien. Quoi. On part de zéro et on remonte les pistes un peu comme le ferait un enquêteur. Mmh. Et quand... alors, moi, je suis dubitatif et très vite, en écoutant les arguments qu'on peut me donner, je dis, les autorités ont menti, les médias mentent, hein, oui.
Et vous allez lancer donc vos étudiants, vos élèves, sur la piste de cette rumeur, en tentant comme ça pendant un certain temps de poser des questions, de remonter justement jusqu'aux origines des rumeurs pour voir qui transmet la rumeur, comment elle se transmet. Au bout du compte, Pascal Froissart, c'est un moment très important d'avoir un espace-temps comme cela réduit, un lieu dans lequel se développe une rumeur, une période très courte pendant laquelle on peut voir justement comment naît et se développe une rumeur. C'est assez fantastique parce que souvent les rumeurs sont plutôt floues, partent comme cela d'un lieu improbable du côté des États-Unis, d'une université américaine, et puis après on ne sait plus qui l'a transmise. Alors que là, on a la date de début et on a aussi les vecteurs et le lieu où ça se passe.
Oui, c'est véritablement un laboratoire et c'est donc un cas très intéressant à étudier. Le livre de René Demergue, enfin, qu'il a rédigé avec ses étudiants, est une véritable étude de cas et c'est tellement rare que celui-là mérite vraiment effectivement qu'on s'y arrête. Et j'en profite pour féliciter René Demergue qui, avec sa naïveté, comme vous le dites, une naïveté de scientifique, a fait une œuvre de scientifique. C'est véritablement un excellent travail de terrain, sans a priori et sans surimposition, disons, de croyances plus ou moins scientifiques, plus ou moins idéologiques, a priori.
Ça vous a aidé, d'ailleurs, avec vos étudiants, avec vos élèves, à ce moment-là, René Demergue, de ne pas très bien connaître les théories des rumeurs et vous lancer comme ça ?
Oui, je pense que c'était fondamental. Sinon... je pense que l'enthousiasme des élèves aurait été... Enfin, émoussé, je ne les aurais pas convaincus du tout. Hein, mais on comprendra pourquoi par la suite. Mais il est certain que mon enthousiasme personnel aurait été réduit. Mais quand vous avez dit tout à l'heure, vous les avez lancés, comment dirais-je, à la quête des rumeurs, à la recherche des sources, absolument pas, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est quand je suis entré en cours, il était impossible de parler d'autre chose. donc, ils se sont lancés tout seuls.
Tout seuls, oui. Et vous n'avez fait qu'accompagner le mouvement, voilà, c'est cela.
Voilà, et comme tous les ans, je faisais des recherches avec les élèves sur les cafés de Nîmes, sur les lycées, enfin, études comparatives des lycées, des choses comme ça, le meilleur rapport qualité-prix dans les cafés ou n'importe quel sujet qui nous intéressait, là, le sujet s'était imposé, tout simplement. Et en plus, on ne recherchait certainement pas les sources de la rumeur. Alors, je vais dire « on » parce que j'accompagnais les élèves dans cette démarche. On cherchait à démontrer que les autorités mentaient et que les médias étaient au service des autorités.
C'est ce que Pascal Froissart dit. Vous êtes parti sans a priori. Si vous êtes parti avec un a priori qui a été contredit par la suite, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, il a été contredit, mais dans l'esprit des élèves, ça a pris énormément de temps.
Oui, et dans le vôtre, un peu moins de temps, peut-être.
Dans le mien, quelques mois, 2-3 mois, quand je me suis aperçu que, en remontant les pistes, on débouchait toujours, en fait, que l'informateur se dérobait tout le temps, si vous voulez.
Parce que c'est la théorie. Alors après, vous avez plaqué vous-même et puis d'autres scientifiques vous ont aidé à théoriser tout cela. C'est ce qu'on appelle la théorie. Alors on appelle ça ADUA en français, FOAF en anglais, friend of a friend, ou ADUA, c'est ami d'un ami. C'est la théorie que chacun rapporte évidemment qu'il connaît quelqu'un qui connaît très bien le cas et qu'il ne peut pas trop en parler. Mais évidemment, il y a toujours un intermédiaire très court, un laps de temps ou une personnalité très, très proche qui transmet la rumeur à celui qui la répète ensuite à ses amis, c'est cela ?
Voilà, mais seulement la différence avec beaucoup d'études des rumeurs, c'est que, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, ou M. Froissart, je crois, nous sommes sur le terrain, et donc on arrive quand même à remonter assez facilement aux informateurs. C'est-à-dire que on a fait remplir, sur l'ensemble des enquêtes, on a fait remplir 3500 fiches au total. Et les gamins, les lycéens, quand ils font remplir les fiches, les font remplir essentiellement dans leur entourage. Et ce qui veut dire que lorsqu'une fiche nous interpelle, bien qu'on ait conservé l'anonymat, il est très facile de remonter à l'informateur par le biais de l'élève. Si vous voulez, on lui dit, contacte cette personne, essaye d'aller voir. Et alors, assez souvent, c'est effectivement, le médecin de ma mère qui lui a dit que, alors tu vas remonter, tu vas aller retrouver
le pompier,
le médecin. Le médecin, une fois rencontré, va lui dire que lui, il a appris de la part de sa secrétaire. Et là, il rencontre la secrétaire qu'il a appris de la part de sa mère, et sa mère l'a entendu au marché-gare. Bon. Ça, c'est le schéma classique. Mais quand même, du fait qu'on était sur le terrain, on a pu avoir des informations beaucoup, beaucoup plus intéressantes et extrêmement troublantes. Par exemple, une élève, alors moi, je crois que ça fait partie des témoignages qui m'ont le plus troublé, une élève qui me dit, mon oncle, alors mon oncle, hein, c'est pas l'ami de son oncle, etc., mon oncle est pompier. Et avec son équipe, ils ont collecté des dizaines de cadavres boulevard Georges Pompidou, en bas du Cadoreau. Mm-hmm. Bon, alors, je lui dis, mais est-ce que c'est bien vrai ? Repose la question à ton oncle, mais dans un contexte où il n'est pas mis face
à
ses contradictions. Voilà, tu le mets à l'aise, tu dis que tu ne te souviens plus. Enfin, voilà, la sociologie, c'est un peu l'apprentissage de l'hypocrisie, vous savez, dans la...
Ou de la naïveté.
dans la façon d'interroger les informateurs. Et elle revient en disant non, il assure qu'ils ont ramassé 40 cadavres. Voilà. Alors, comme des informations de ce type-là, j'en ai eu 3, j'avoue que j'étais extrêmement troublé.
Oui, alors évidemment, on s'apercevra qu'il y a d'autres cadavres qui peuvent provenir du cimetière protestant, puisqu'il y a des morts qui ont été déterrés par cette arrivée brusque des eaux. Donc, que tout cela peut être confondu. Pascal Froissart, quand on lit la rumeur de Nîmes, donc le travail accompli par René Domergue avec ses élèves, on s'aperçoit, donc je rappelle l'année même où a eu lieu cette inondation, l'année suivante et puis 10 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on a là tout un panel de ce que sont les rumeurs. Les enfants dévorés par les rats, le quart de touristes allemands, forcément, peut-être pas forcément, mais en tout cas, le quart de touristes étrangers qui a péri dans les flots. Et c'est pour cela qu'on ne retrouve pas ces morts-là, puisque ce sont des étrangers et personne n'a réclamé leur corps. Et donc, on a tout un tas de choses comme ça qui rendent logique aussi le fait qu'on ne retrouve pas les cadavres, Pascal Froissart.
C'est l'un des éléments clés, en fait, du fonctionnement de la rumeur. Les rumeurs ne sont pas juste des informations non vérifiée ou comment dire difficile à vérifier. Il faut en plus, disons, qu'il y ait une fiction derrière. Oui. Il faut que il y ait quelque chose de croustillant, quelque chose. Bon, là, dans ce cas-là, c'est pas vraiment croustillant, c'est plutôt tragique, dramatique. Mais il suffit pas, disons, d'une information selon laquelle il y aurait des morts cachées. Ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit cachée par quelqu'un et qu'il y ait une sorte de théorie du complot qui se mette en place. Et en fait, c'est un petit peu comme de la littérature. Si on réduit Roméo et Juliette à « il s'aime et il meurt », ça fait pas une pièce, ça fait pas West Side Story.
Oui. Non, mais c'est aussi une mise en ordre, René Domergue, de la société. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut que tout cela ait une logique. Évidemment, il y a de l'illogisme dans cette inondation brusque, cette montée des eaux. Et donc, on essaye de trouver une logique à tout cela, c'est cela aussi ?
Écoutez, si je parle de mes élèves... Je reviens sur ce que je disais, ne cherchent pas du tout de la logique nulle part. Eux cherchent à démontrer que les journalistes ne font pas leur travail.
Ouais.
Voilà.
Et donc ils vont le faire mieux que les autres, c'est ça ?
Voilà, voilà. Ils vont le faire mieux que les autres. Et donc, se retrouve. Parce que là, on pourrait penser que ces livres ont été faits dans l'euphorie et dans la joie, mais c'est absolument pas ça, parce que on avait réparti les fiches qui, a priori, ouvraient des pistes intéressantes. On les avait réparties entre 5-6 groupes d'élèves, de manière thématique, plutôt un remontait la piste des pompiers, l'autre piste, différentes pistes avaient été définies. Et au bout, lorsqu'on faisait le point une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours, et les élèves arrivaient extrêmement frustrés parce qu'ils ne parvenaient pas à obtenir une information décisive. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, quand il est devenu évident qu'ils n'obtenaient pas l'information clé, parce que l'information clé, au bout d'un moment, il a fallu lui dire, mais qu'est-ce que c'est la preuve du mensonge officiel ? On n'est même pas parti de là, hein. On n'était même pas parti de l'idée de qu'est-ce qui pouvait constituer une preuve. Mmh. Or, c'était quand un élève revenait avec l'information selon laquelle, un inspecteur de police lui a dit qu'il y avait 100 noyés, par exemple. Un pompier lui a dit qu'il y en avait 80 tirés du jardin de la Fontaine, etc. En fait, ça ne prouvait rien du tout. Donc, il a fallu d'abord définir, enfin d'abord, je dis d'abord, mais c'était 2 mois après le commencement de nos investigations, mmh. il a fallu définir ce qui était la preuve du mensonge officiel. Mmh. Et donc, à force, on a dû passer une grosse après-midi là-dessus. Et il est devenu évident qu'il fallait, c'était pas peine de trouver la trace de centaines de noyés, il fallait trouver un seul nom qui ne soit pas dans la liste officielle.
Mmh. Et voilà. Malheureusement, souvent, enfin malheureusement pour ceux qui croyaient à la rumeur, souvent, bien ce nom qui ne figurait pas dans la liste officielle finissait par figurer dans la liste officielle et on ne trouvait toujours pas une personne supplémentaire. Mais au bout du compte, vous disiez, René Demer, que la presse avait été, ne faisait pas son travail, c'est du moins ce que pensaient vos élèves à ce moment-là. Mais c'est grâce à la presse qu'au bout du compte, ce travail collectif que vous avez réalisé a été médiatisé et ensuite a donné lieu à des reprises et ce qui a valorisé le travail de vos élèves. C'est ça qui était assez étrange, par exemple.
Oui, d'ailleurs, les circonstances sont assez étonnantes parce que nous avions produit un polycopié d'une trentaine de pages, comme on le faisait régulièrement pour finaliser nos travaux. Mm-hmm. Et c'est un élève qui l'a déposé dans la boîte aux lettres de Midi Libre.
Anonymement.
La nuit tombée. Non, mais anonymement, il y avait nos noms. Et jamais on n'aurait osé faire cette démarche. C'est dire l'ambiance. C'est dire que, dans l'institution scolaire, on a le sentiment qu'on ne peut pas produire de l'information. Si vous voulez, quelque chose qui ait une certaine qualité. Oui. Et alors là, n'a pas été notre surprise de voir que une page entière. Mais vous savez, ils pas faite pour nous faire plaisir. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Gérard Durand, qui était un journaliste qui occupait des responsabilités à Nîmes, puis qui en occupe maintenant à Midi Région, Midi Libre Région, qui est un journaliste remarquable que j'estime beaucoup. Puis donc, on reparle de cette situation. Ce qui se passait, c'est que les journalistes de Midi Libre, et pas seulement, Radio France et tout le reste, étaient absolument ulcérés par les coups de téléphone qu'ils recevaient des gens qui disaient « Mais faites votre boulot, venez chercher, venez sur le terrain, etc. » Et donc, ils étaient à bout d'arguments, parce que même donner la parole à un sociologue qui va leur démonter les mécanismes de la rumeur, ça ne les convaincra absolument pas.
Eh oui.
Et donc là, ils trouvent une enquête très, très fraîche, si je puis m'exprimer ainsi, et on ne peut pas soupçonner les élèves d'être manipulés, mm-hmm. Puisqu'ils cherchaient absolument le contraire. Alors ça leur a fait énormément de bien, je pense qu'on tient notre page est liée au fait qu'on les rassurait, si vous voulez.
Sur leur propre travail.
Oui.
Alors on va écouter maintenant une sélection d'archives d'une dizaine de minutes sur un autre cas d'inondation. C'était dans la Somme, Amélie Meff.
C'était dans la Somme, donc c'est plus près de nous. La rumeur est moins dramatique hein, quand même, c'est pas des centaines de morts là, hein. C'est autre chose. On est à Abbeville au printemps 2001.
France Inter. Cela fait environ 15 jours que plusieurs communes situées le long du canal de la Somme sont touchées par les inondations. La situation s'est dégradée ce week-end avec les précipitations conjuguées aux grandes marées d'équinoxe. 54 communes sont inondées entre la baie de Somme et Amiens. Cela représente 1200 habitations. 225 maisons ont dû être évacuées. Écoutez à ce propos le témoignage d'un habitant sinistré d'Abbeville. Il s'appelle Francis et il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Tout est fichu là. Vous savez, il y a une étape. Hein. Vous barricadez tout, vous attendez que la flotte arrive. Et puis une fois que c'est passé, ben après il faut se dire, bon, ben, écoute, maintenant on ne peut plus rien faire. Hein. Bon, ben, hein, mais c'est une maison qui a longtemps que je viens d'acheter. Et puis j'ai refait tout le bord, tout. Et puis ben, voilà, tout est à refaire. Je pose des questions. Hein. Vraiment des questions. Hein. Parce que moi je suis nouveau dans le quartier. J'ai quand même les voisins, les personnes très âgées qui étaient là, n'ont jamais vu du tout, du tout. Hein. Il y avait la rivière du Douin, là derrière, n'est jamais sorti de son lit. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, on se le demande. Hein. Là, c'est vraiment grave, grave. Hein.
France Inter. 22 routes sont donc coupées dans le département de la Somme, sur une bande de 40 km entre Amiens et Abbeville. En ligne d'Amiens, le préfet de la Somme, Daniel Cadou, bonjour.
Bonjour.
D'abord un mot sur le bilan, ce que je viens d'annoncer n'a pas bougé, c'est toujours pareil?
Oui, c'est ça, environ 60 communes inondées, 1500 un peu plus d'habitations que vous l'avez annoncé sont envahies plus ou moins gravement par les eaux et près de 300 ont dû être évacués.
Alors cet après-midi, vous irez à Fontaine-sur-Somme et à Abbeville, deux des communes les plus touchées par les inondations. Quelles seront les suites? Vous allez par exemple demander...
D'abord, moi j'ai bien entendu le message de détresse de la personne qui vient de s'exprimer. Je comprends cette détresse, je la partage et tout le monde la partage, personne ne demeure insensible. Il y a un fort mouvement de solidarité dans la population et les voisins, les amis, les familles se mobilisent pour aider les familles touchées. Alors la personne disait, on n'a jamais vu ça, je suis nouveau, mais... des anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Effectivement, on n'a jamais vu ça. On a une conjonction de deux et même de trois crues. Il y a une crue de la Somme, de la rivière et de ses affluents. Il y a une crue des étangs et des marécages qui sont très, très nombreux le long de la vallée et qui, jusqu'ici, servaient d'éponge et de déversoir. Et puis, il y a une troisième crue, une crue des nappes souterraines qui déborde et qui alimente les inondations. C'est cette conjonction de crues qui fait la gravité et la nouveauté de la situation.
Alors, monsieur le préfet, vous me parlez d'inondations, vous me parlez de nappes phréatiques qui débordent. Est-ce qu'il n'y aurait pas également une autre raison? Est-ce que, par exemple, quelqu'un n'aurait pas lâché les vannes en amont du canal du Nord? C'est une hypothèse évoquée dans la Somme.
Dire, mais, c'est vrai que dans une situation de crise, il y a les rumeurs les plus folles qui circulent. Mais,
vous les démentez.
Dans la crise, il ne faut pas en plus tomber dans la parano. La crise est suffisamment grave pour qu'on ne tombe pas dans la parano. La Somme n'est pas victime d'un complot. Non, le seul responsable, c'est le temps, monsieur, c'est la pluie.
Non, mais sans parler d'un complot, on peut imaginer une erreur humaine, tout simplement.
Non, il n'y a pas d'erreur humaine. C'est vrai, quand on a construit le canal du Nord, il y a trois petits cours d'eau qui se jetaient naturellement dans la Somme et dont le cours a été interrompu pour alimenter le canal du Nord. Mais ne revient à la Somme que ce qui devait naturellement lui revenir. Et quelques mètres cubes, rien à voir avec les 80 ou 100 mètres cubes que l'on constate à Abbeville. C'est une fausse explication. Mais je comprends que dans la détresse, il circule toutes sortes de rumeurs qui sont totalement inexactes.
D'accord. On va revenir aux suites. Vous avez demandé à ce que la région soit déclarée sinistrée, j'imagine.
Oui, naturellement. Et d'abord, j'ai mobilisé l'armée. On a mobilisé tous les moyens disponibles.
France Inter. Il y a trois semaines, c'était le Rhône et la Saône. Il y a deux semaines, c'était la Vilaine en Bretagne. Cette fois-ci, c'est la Somme qui déborde. Ce week-end, plus de 600 personnes ont dû être évacuées. Près de 2000 habitations ont été inondées, en particulier dans la région d'Abbeville. Écoutez ce reportage de Benoît Colomba. Il s'est rendu ce matin dans l'un des quartiers de la ville où le niveau de l'eau continue de grimper.
Opération parpaing et rangée de planches dans le quartier Saint-Gilles d'Abbeville, l'eau qui monte et le moral qui descend.
Oui, on est cerné parce que ça arrive au bout du jardin, là derrière ma maison, là. Hein. Puis j'en ai rien dans ma cave. C'est la mer, hein, faut voir derrière comment c'est. Hein. On n'a plus de toilette, on n'a plus rien, on peut plus rien faire, on peut plus jardiner, c'est rien, tout est bloqué, là.
Nous, on pense que c'est l'eau qui a été déversée, il n'y a pas de secret. Nous, on pense pas que ce soit les grosses marées, on a déjà eu des grosses marées. Moi, j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je vis ici, j'ai jamais vu. Et là, on voyait bien arriver l'eau, c'était un torrent qui arrivait derrière, c'est monté d'une vitesse, c'était incroyable la vitesse. En 3 jours de temps, nous, on a été inondés. Hein. Moi, je pense que c'est quand même pour protéger les villes, genre Paris, des inondations. On a quand même dévié. Il y a quand même eu quelque chose de dévié puisqu'on n'a pas été. C'est pas la Somme qui nous a inondé au départ. C'est pas la rivière devant chez nous. C'est derrière. Ça arrivait trop vite pour que ce soit pas quelque chose qui a été déversé chez nous. C'était un torrent, un torrent.
Même quand il pleut plus, ça continue de monter, donc ça avait mal quelque part.
Pas de forte marée. On a eu 2 jours sans forte marée ou 2 jours ça a monté. Vaut mieux inonder des petits et puis préserver les gros. Moi, je le prends comme ça, je le dis franchement, parce que je pense que c'est ça. Et puis, j'en suis persuadée. Parce que le préfet, il a beau nous dire que c'est les eaux de pluie, ou alors ils l'ont gardé dans un bac et puis nous les ont déversés après, mais il y a quelque chose. Je suis désolée, c'est pas les eaux de pluie qui font ça, c'est pas possible.
France Inter. Cette rumeur étrange, selon laquelle les cours d'eau auraient été détournés pour préserver la région parisienne, vous l'avez entendu, cette rumeur persiste. Alors dit comme ça, on a l'impression d'avoir effectivement affaire à une blague pour gros naïfs, et pourtant, le maire d'Abbeville lui-même, Joël Hart, n'exclut rien. Pour lui, la rumeur n'est pas totalement infondée. Écoutez.
Il y a beaucoup de rumeurs, celle-ci, c'est celle qu'on entend le plus souvent, c'est-à-dire qu'on aurait préservé la région parisienne des anciennes crues et détourné progressivement les cours d'eau en crue vers l'aval, dont nous. La deuxième, c'est à propos des Jeux Olympiques, pour présenter une ville correcte, on aurait aussi déversé, j'y crois pas trop non plus.
Sur le détournement des eaux, on parle d'un trop-plein venant du canal du Nord, c'est ça?
Oui, c'est cette troisième rumeur, mais qui, elle, n'est pas qu'une rumeur à mon avis, et même si on nous dit officiellement de ne pas le dire, excusez ma voix parce qu'on est sur le terrain tous les jours, très honnêtement je suis de ceux qui pensent que ça demandera vérification et en tout cas obligation de s'en assurer pour l'avenir.
Vous pouvez préciser ?
C'est-à-dire qu'on devra savoir si oui ou non techniquement par des experts indépendants de tout le monde, si tout cela se produit. Si cela se produit, il faudra non pas critiquer ou punir les gens, il faut trouver des solutions pour que ça ne se produise plus.
Joël Hart, merci d'avoir été en direct avec nous d'Abbeville. Si vous habitez la région, sachez que la radio locale de Radio France, France Bleu Picardie, propose aujourd'hui une antenne ouverte pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Vous pouvez appeler le 03 22 92 58 58 ou le 03 22 71 15 15.
À propos de cette rumeur étrange et persistante, rumeur selon laquelle des cours d'eau auraient été détournés pour épargner Paris et sa région, raison pour laquelle le département de la Somme aurait tout pris, Lionel Jospin aussi. À Abbeville, le reportage de Benoît Colomba.
16h10, arrivée de Lionel Jospin en bus dans la Cité Saint à Abbeville. Jusqu'ici, tout va bien.
Oui. Vous ferez quelque chose pour nous ?
Bien sûr.
600 000 francs d'aide d'urgence, la mise en place d'une inspection conjointe entre le ministère de l'Environnement et de l'Équipement. Quelques minutes plus tard, le Premier ministre monte dans un camion de l'armée sous les sifflets et les cris des riverains, direction les maisons sinistrées. Tous les deux mètres, la rumeur du délestage d'eau revient violemment à la figure de Lionel Jospin.
Qu'est-ce que vous pouvez me donner à moi comme explication à cette situation ?
Une pluie qui est tombée, qui est trois fois plus que la moyenne habituelle.
Non, on a toujours des pluies torrentielles, on en a toujours.
Pas sur la même durée.
Après, deuxième, vous me dites quoi ?
Hein ?
Vous me dites quoi ?
Ben les nappes phréatiques ont été saturées, les marais également. Bon, les grandes marées qui obligeaient à empêcher le reflux de la mer.
Tous les ans, nous avons des grandes marées.
Non, pas avec la même pluviométrie.
Écoutez, j'habite ici. Depuis ma naissance, je sais les conditions atmosphériques. Je n'ai jamais vu ça de ma vie.
Madame, quand on a eu...
Il y a des gens qui ont 80 ans, ils n'ont jamais vu ça.
Mais oui, qui voulez-vous qui ait la possibilité, à Paris, de décider de déverser
Monsieur
de l'eau ?
Monsieur Jospin, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles.
Non, certainement pas, mais je vous
Enfin, des imbéciles inondés. Mais en tout cas, si vous voulez un bassin olympique pour les épreuves de natation, on a ce qu'il faut à votre disposition.
Ne croyez
Merci
pas à
ça. Merci de votre visite de courtoisie.
17h15, Lionel Jospin est dans un hélicoptère. Finalement, il n'ira pas à Fontaine-sur-Somme. Abbeville, Benoît Colomba, France Inter. De nouvelles planches après le passage de Lionel Jospin, une visite écourtée qui a laissé des traces.
Il s'est fait recevoir parce qu'il a proposé aux gens des balais, des serpillères, donc je pense pas que ce soit la meilleure façon de... S'il vit en Picardie, qu'il respecte au moins les gens qui sont inondés.
C'est
quand
tout.
Il nous donne 600 000 francs pour l'ensemble du sinistre, vous savez qu'aujourd'hui ça coûte déjà 2 millions de francs à la mairie.
C'est de moquer de nous, hein.
Ça permet de tenir une semaine, quoi, c'est tout. C'est une goutte d'eau. Pas une goutte d'eau dans la mer, une goutte d'eau dans le faubourg des planches.
C'était pas IA qui devait venir, c'était au départ. Et voilà comment ça se passait.
Ah, c'est tout, il a pas à venir comme ça, il vient du Brésil, lui, il s'en fout, hein.
Ouais.
Il n'a rien à branler d'Abbeville.
Lui, il est au chaud, il est au sec. Hein. Maintenant, c'est fini, il ne viendra plus ici. Hein.
Bah, écoutez, il n'a pas bougé son cul, hein, je regrette. Hein. Il était au Brésil, lui, il était au sec. Il s'est fait bousculer, c'est bien. Et moi, je l'aurais poussé dans l'eau. Ouais.
Il a les moyens techniques, lui. Mais à condition qu'on veuille bien les employer.
Ce matin, la Somme a descendu de 10 cm à Piquigny et il paraît que la Seine a monté. C'est vraiment bizarre.
France Inter. Quel sale temps, mais que fait donc le gouvernement ? Absurde. Et pourtant, lorsque Lionel Jospin est allé rendre visite aux populations sinistrées d'Abbeville, la rue lui a presque reproché les intempéries. Souvenez-vous de cette rumeur selon laquelle les pouvoirs publics auraient détourné les cours d'eau pour épargner Paris. Les revenus sur cet épisode tout à l'heure devant les sénateurs. Écoutez.
Je dois dire, parce que tout doit être dit, que cette colère, cette incompréhension aurait peut-être été moins forte si n'avait pas été répandue auprès d'eux, sans qu'elle soit démentie, cette rumeur insensée selon laquelle on aurait pu vouloir noyer la Somme pour préserver Paris. Il a été fait justice, bien sûr, du caractère absurde de cette rumeur. Mais je n'ai pas rencontré un homme ou une femme, à ce moment-là, dans ces conditions difficiles, sans qu'ils me le disent en y croyant dur comme fer. Et j'aurais souhaité qu'un certain nombre d'élus locaux, dont vous n'êtes pas d'ailleurs, monsieur le sénateur, je le crois, au lieu de contribuer à accréditer cette rumeur, la démente pour en montrer dans notre pays l'impossibilité. Quoi qu'il en soit, et quels qu'aient été les commentaires qui aient été faits, il me semble que j'ai été, avec le ministre de l'Intérieur, la seule personnalité nationale à aller directement au contact de ses habitants, durement touchés et en colère. Croyez bien que je ne regrette pas de l'avoir fait.
Voilà, René Demergue, Pascal Froissart, vous venez d'entendre donc cette sélection d'archives sur une autre catastrophe due à des inondations. C'était dans la Somme en 2001. René Demergue, vous trouvez des échos par rapport à ce que vous avez pu connaître sur le travail que vous avez mené à Nîmes ?
Eh bien, je suis frappé par le fait que là, c'est une rumeur qui concerne les causes de l'inondation. Et à Nîmes, c'était une rumeur sur le constat,
sur les
constat chiffré. Oui, voilà. Combien y a-t-il de morts donc, c'est bon, ce sont des rumeurs chaque fois. Mais en même temps que j'écoutais
les archives,
je me disais finalement, à Nîmes, il n'y a pas eu tellement de débats sur les causes. Par la suite, il y en a eu, mais le débat sur les causes, c'est-à-dire la
qui
municipalité
qui est responsable,
et puis surtout le sous-dimensionnement des réseaux d'évacuation, le fait qu'on ait laissé construire, etc., bien sûr, ça a été dit, et on trouve ça dans les arguments qui expliqueraient le mensonge officiel en disant ils ne veulent pas qu'on les mette en cause, etc. Mais vraiment, c'était mineur par rapport au fait qu'on mentirait à la population.
Alors là, ce qui est étonnant, Pascal Froissart, c'est le conflit donc Paris, la région donc de la Somme, donc Paris-Province, c'est la mise en cause des responsabilités, puis c'est toujours cette capacité qu'a la rumeur, plus on la dément, plus au bout du compte, on finit par y croire.
Oui, le démenti a une vertu disséminatrice évidente. En fait, il ne faut jamais démentir, ou plutôt il faut toujours démentir parce qu'on le croit, mais en gros, mathématiquement, c'est le meilleur moyen de diffuser une rumeur. Ceci dit, ce cas d'école-là a été aussi étudié, mais très peu, enfin beaucoup moins, parce que justement les gens de la Somme ne se sont pas saisis du problème de la même manière qu'à Nîmes. Et les chiffres et les études qu'on a sont souvent des rapports journalistiques précisément. Mmh. Ce sont souvent des journalistes qui sont revenus sur cette affaire-là quelques mois après, quelques années après. Et donc ça change beaucoup la connaissance que l'on a de cette rumeur ou de ce on-dit au moment des inondations, parce que c'est en fait un on-dit qui est rapporté en permanence par des journalistes, alors qu'à Nîmes, on avait véritablement une parole de terrain.
Oui, et on est toujours dans cette logique aussi. Il y a cela en fond de ce qu'a étudié l'historien Pierre Birnbaum, le spécialiste de sciences politiques Pierre Birnbaum, c'est le peuple et les gros. On inonde les petits pour laisser en paix les gros.
Alors ça, c'est un des éléments de la fiction qui se construit à ce moment-là. Hein. Mais en fait, il y en a d'autres. On a entendu l'histoire des Jeux Olympiques, l'histoire des... Enfin, un ensemble, au moment, comment dire, d'un désastre ou d'une information comme ça qui est extrêmement ambiguë, extrêmement compliquée, ou simplement une détresse individuelle, on va chercher à la fois dans la rationalité, mais à la fois dans la croyance, dans la fiction, dans l'histoire, des motifs. Hein, d'expression de ses émotions, soit au contraire de, comme vous le disiez, un peu de remise en ordre ou de mise en ordre de la réalité.
Amélie Meff. Là, on vient d'entendre Jospin, Premier ministre, qui est malmené, voilà, et qui s'explique devant les sénateurs, quand même. Donc c'est l'autorité qui a les pieds au sec, c'est l'autorité qui va bronzer au Brésil. Ouais. Et puis derrière Jospin, c'est aussi les parigots, quoi. C'est les Parisiens, c'est les riches. Il y a quand même un peu ça, non, dans certaines rumeurs, c'est-à-dire cette espèce d'autorité qui forcément s'en prend aux populos, quoi. En gros.
Il n'y a pas que ça, mais effectivement, il y a ce fond, comment dire, justement traditionnel de la théorie du complot, de la théorie de
la mythologie conspirationniste,
cette mythologie du Goliath ou du petit Pousset, ou on est là dans un univers, disons, folklorique connu, et donc effectivement, on se représente au moment où on a besoin d'une explication, on se représente dans cette situation-là. Mais de fait, il faut dire aussi que la Somme a vécu vis-à-vis de Paris au moment du premier conflit mondial une situation assez terrible aussi. Hein. Le Paris a été protégé, disons, d'une certaine manière par la Somme. Et donc, le ressentiment, il ne date pas de cette inondation-là. Le ressentiment, il est ancien et il s'exprime, disons, à l'occasion de cela. Mais je voudrais revenir aussi sur le côté purement politicien de la chose. À l'époque, le gouvernement est de gauche et la région est de droite. Le maire de la ville est de droite, si je ne me trompe pas. Et donc je crois bien que là, il y a aussi des règlements de compte politiques qu'il ne faut pas absolument occulter en mettant en avant toujours cette espèce de fond folklorique de la rumeur, quelque chose de transcendant qui transcenderait les contingences matérielles du moment.
Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont intérêt à faire circuler la rumeur. C'est d'ailleurs ce que tente de dire Lionel Jospin. Et évidemment, il n'est pas non plus entendu lorsqu'il dit ça. Il dit qu'il y a certaines personnes qui, évidemment, certains maires en particulier, qui ont laissé courir la rumeur parce que ça les arrangeait et ça permettait de reporter la responsabilité sur plus haut que ces maires, Amélie Meff.
Oui, mais il y a aussi quand même un terreau là qui est très présent et qui est terrifiant en même temps, qui est angoissant. C'est l'eau qui monte. Il y a une exaspération, il y a une colère. On peut comprendre quand même que quand on a les pieds comme ça dans l'eau et voir la tête qui va être noyée, on puisse dire mais c'est de votre faute, faites quelque chose. De toute façon, il faut qu'on trouve une explication.
Oui, la tragédie individuelle est évidente. Hein. Il y a un ensemble, des dizaines et des centaines et des milliers de gens qui vivent des tragédies individuelles. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, les tragédies individuelles se retrouvent transcendées ou se retrouvent cristallisées
dans
un récit collectif. Et c'est là le questionnement scientifique peut amener peut-être de l'éclairage, se poser la question pourquoi est-ce qu'il s'est cristallisé dans cette explication-là. Alors, il y a des raisonnements psychanalytiques qu'on pourrait mettre en avant, des raisonnements sociopolitiques ou géopolitiques comme vous le mettiez en avant, mais on peut se replonger. Alors, moi, je n'étais pas sur le terrain, évidemment, j'étais un Parisien, donc vous pensez bien que j'étais pas sur le terrain. Et je me rappelle néanmoins qu'il y a eu des acteurs locaux qui ont disséminé réellement ce récit-là en faisant quasiment du porte-à-porte, en posant des affichettes dans les cabines téléphoniques, en portant des tracts dans les rédactions et des choses comme ça. Et donc, ce récit collectif, il ne faut peut-être pas aller chercher trop loin sa source. Elle est peut-être toute bête, c'est-à-dire il y a eu des gens qui ont
instrumentalisation locale, par exemple.
Voilà, hein, qui ont proposé ce récit-là, et ce récit-là, comme il marche, et il marche bien, c'est quand même tentant de penser qu'on a, noyé une région pour sauver une ville. C'est formidable. Hein. Je parlais tout à l'heure de ces fictions qui méritent d'être anecdotiques, croustillantes, où il faut chercher quelque chose hein, de l'ordre du drame et du fatum, du destin tragique quasiment antique. Ben là, c'est formidable. Hein. Ça y est, on a détourné les cours d'eau de la capitale pour noyer la province.
René Domergue.
quelque chose me fait réagir, c'est lorsque vous faites intervenir les rivalités politiques pour expliquer la rumeur de l'abbé de Somme. Je me dis que ici à Nîmes, ça ne pouvait pas fonctionner ainsi, dans la mesure où gauche et droite s'étaient succédé à la tête de la mairie de Nîmes, et que donc, comment dirais-je, personne n'avait intérêt à attaquer l'autre en disant que les travaux étaient mal effectués, que c'était sous-dimensionné, etc. Oui. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner.
L'alternance a une certaine vertu, c'est ce que vous voulez dire, en l'occurrence, pour pouvoir faire taire ce genre de rumeurs, même si d'autres sont mises en avant. Alors, le parallélisme entre ce que disait Amélie Meffre tout à l'heure par rapport à la Somme et par rapport à ce cas de Nîmes, c'est effectivement cela. C'est ces personnes qui se retrouvent coincées, presque en train de se noyer. Évidemment, on cherche un responsable.
Oui, alors là, Monsieur Froissart a évoqué la psychanalyse tout à l'heure. Il est certain qu'on est tellement démunis pour comprendre l'étrangeté de ce phénomène de rumeur. Hein. Par exemple, des gens que nous rencontrons qui nous donnent une preuve du mensonge officiel, telle personne, par exemple, on lui montre la liste officielle et le nom de la personne est dans la liste officielle. On peut penser que le problème est réglé. Non, le lendemain, elle va trouver un autre argument. Et puis, alors, mes élèves vont chercher... vont fouiller dans la direction indiquée et l'argument est battu en brèche. Et la personne concernée, vous la revoyez 15 jours plus tard, elle a encore autre chose. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, mais franchement, ça relève de la psychanalyse. Et nous, on a eu l'occasion de rencontrer M. Henrich, qui faisait son mémoire de doctorat à ce moment-là et qui a évoqué la notion de deuil tronqué. Alors, je ne sais pas ce que ça peut vous inspirer, c'est-à-dire que, étant donné l'importance des dégâts, la population, selon lui, hein, la population de Nîmes s'attendait à des dizaines et des dizaines de noyés.
Une sorte de frustration de ne pas avoir eu le nombre de morts qu'on pouvait imaginer qui serait donc victime de cette inondation.
Voilà, au point qu'il a été, d'ailleurs, la mairie avait prévu de faire une chapelle ardente, et puis ils ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de noyés pour que la cérémonie soit crédible. Et un autre élément à jouer, c'est que le maire de l'époque, c'était l'époque de Bousquet, a mobilisé ses services avec une efficacité remarquable, puis il y a eu une grande solidarité nationale qui a joué. Et donc la ville a été remise en état en, je ne sais pas, une semaine peut-être. Et d'après M. Henrich, c'était trop vite, c'était trop rapide. La population n'avait pas eu le temps de penser ses plaies.
Voilà, une sorte de compensation du travail de deuil qui n'aurait pas pu s'effectuer parce que ce travail de deuil aurait été trop rapidement circonscrit.
Il aurait été bâclé,
on va dire. Pascal Froissart,
oui. Mais je suis assez réticent à la socio-psychanalyse pour la bonne raison que j'estime beaucoup la psychanalyse, mais je crois que c'est une démarche individuelle d'un patient avec son analyste. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse analyser une société. La rumeur n'est pas la parole d'une société. La rumeur, c'est une parole qui est extraite de l'ensemble des discours qui circulent dans une société. Et elle est extraite, je le disais, généralement par des journalistes, ou généralement, quelquefois par des historiens, mais souvent par des journalistes. Et cette parole-là, elle est quasi aléatoire. Elle n'est pas, ce n'est pas, comment dire, le symptôme d'un inconscient social. On fait là une série de métaphores qui d'ailleurs sont proches de la sociobiologie, parce qu'on imagine que la société française a un corps et que la rumeur serait sortie de sa bouche. Et donc ces métaphores-là sont oiseuses et un petit peu d'ailleurs dangereuses, parce que si la société française était un corps, je ne sais pas que se passe-t-il quand il y a une sécession, que se passe-t-il quand on annexe un territoire, enfin. Est-ce qu'on n'annexe pas une main ? On fait pas sécession d'un pied ? Donc tout ça, toutes ces métaphores-là sont pas très correctes et alors, à mon avis, invalident d'une certaine manière cette idée de rumeur comme symptôme, de rumeur comme parole d'un corps social. Je crois pas. Je crois que la rumeur est un extrait d'un discours, hein, et comme tout extrait, dès qu'on décontextualise, on en perd la saveur.
Oui, Amélie Meffre.
Mais quand même, la rumeur, elle a un corps, elle a une vie. Elle naît, elle meurt, mais avant de mourir, voir si elles meurent, parce que je ne sais pas si vraiment elles peuvent mourir, les rumeurs, je ne suis pas sûre. Hein. Mais en tout cas, elles évoluent. Mmh. Hein. Et René Domergue, vous avez été très, très près de ce fait-là, puisque 10 ans après, Vous refaites une enquête.
Oui, à vrai dire, nous avons fait cinq enquêtes consécutives. Mmh. Les quatre premières rassemblées en une année, puis une 10 ans après. Et bon, alors la rumeur, elle meurt hein, au sens où l'information ne circule plus, si vous voulez. Elle ne fait plus l'objet des conversations. Moi, j'ai bien cru, alors c'était ma période naïve, on va dire, j'ai bien cru que la rumeur allait disparaître, puisque pour la première enquête, donc c'était en octobre-novembre 88, on avait 10%, alors c'était au niveau des élèves, là, 10% des élèves qui considéraient que les autorités disaient la vérité. Quelques mois plus tard, toujours échantillon d'élèves, 18%. Un an après, octobre 89, 40%. Donc on peut penser que la rumeur s'estompe. Et en novembre 89, nous commençons à interroger à l'extérieur du lycée. Donc, on a un échantillon d'adultes, de personnes âgées. Et on a une adhésion au chiffre officiel de l'ordre de 50 à 70%. Alors, si on regarde l'évolution, on se dit, bon, ben, dans quelques années, ça n'est fini de la rumeur. Alors, c'est pour ça que c'est tout à fait accidentel si j'y suis revenu 10 ans après. C'est lors d'un cours de sociologie, j'évoquais ce problème de la rumeur de Nîmes. Et sans que j'ai pu dire un mot de plus et fort heureusement d'ailleurs sans que j'ai pu donner notre analyse, les élèves ont commencé, ont surgi comme au premier jour en disant mais non, mais les autorités nous ont menti et j'ai entendu les mêmes choses que j'entendais le 10 octobre 1988. Alors je me suis empressé de me taire et de dire bon ben écoutez on va vérifier et je les ai relancés dans le même processus que 10 ans auparavant et là on a pu actualiser alors ce qu'on appellera une rumeur sédimentée, certainement quelque chose. Jean-Bruno Renard était d'accord avec cette appellation. Et 35% à ce moment-là, donc 10 ans après, 35% des Nîmois considèrent que le chiffre officiel est exact, 20% considèrent qu'il est faux, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 32% de sceptiques. Et 12% de sans opinion. Oui, oui. Finalement, ça fait un petit tiers de la population nîmoise qui
n'y croit pas tout à fait quand même.
Voilà.
Voire pas du tout.
Voilà.
Pascal Froissart.
Je voudrais juste réagir sur l'expression que vous avez employée tout à l'heure. Il faudrait que la raison s'impose. Mais je voudrais bien savoir pourquoi la raison devrait s'imposer. Non. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui se sont imposées, et en particulier des raisons officielles, qui n'auraient peut-être pas mérité de s'imposer? Je trouve au contraire extrêmement, et c'est pour ça que j'étudie les rumeurs, extrêmement sympathique que dans un univers médiatique où on s'interroge en permanence sur la malléabilité des cerveaux, ou la malléabilité des
leur
auditeurs, leur capacité à réagir, etc. Là, on se retrouve devant des cas très chiffrés, enfin, on a des mesures du scepticisme ambiant d'une population, du doute et d'un doute raisonné, d'un doute raisonnable. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'étonner, comme si c'était un obscurantisme, le retour de l'obscurantisme ou le retour de la croyance? Pourquoi faudrait-il s'étonner alors que justement c'est ça qu'on appelle de nos voeux lorsqu'on on a des débats sur la publicité, sur la pornographie, sur la violence à la télévision, les choses comme
sur
ça.
Sur l'imaginaire, l'irruption de l'imaginaire dans le social
exactement,
et dans le culturel.
Exactement. Et donc ces cas de rumeurs me paraissent au contraire donc extrêmement intéressants à étudier aussi pour ce qu'ils révèlent du fonctionnement de la crédulité dans les sociétés occidentales. Nous ne sommes pas des gens positivistes, disons, qui croyons absolument ce que le maître nous dit, mais nous ne sommes pas non plus des gens qui croyons la moindre fadaise qui passe. On est entre les deux en permanence.
Oui, mais il y a aussi une part de merveilleux, on pourrait dire, dans cette question-là, un merveilleux contemporain, un merveilleux qu'on aurait cherché à circonscrire à un domaine, par exemple, du religieux, qui réémerge sous une autre façon, et donc qui réémerge dans cette question de la rumeur
exactement.
De façon plus forte.
Alors, on en est toujours surpris, mais moi, à force, il me semble, d'étudier la rumeur, c'est d'une évidence totale. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il en soit autrement? Pourquoi est-ce que nous serions des êtres rationnels en permanence? Non, il faut que nous partagions notre rationalité avec nos croyances.
Alors, votre livre, La rumeur, histoire et fantasme, Pascal Froissart, est publié chez Belin. Est-ce qu'on trouve encore votre livre, donc René Domergue, sur la rumeur de Nîmes, qui sert tant aux sociologues parce que c'est un cas d'espèce particulier, justement?
Alors, est-ce qu'il en reste quelques exemplaires chez Edis Sud ? C'est possible.
C'est possible.
J'en ai quelques-uns chez moi. si on consulte, on peut me contacter par mon site renedomergue.com.
Et vous continuez à travailler vous-même sur la question des rumeurs, mais d'une autre façon.
C'est-à-dire, moi, je travaille sur l'ethnologie, on va dire, du pays de Nîmes. Et ce travail sur la rumeur m'a beaucoup servi à comprendre certains aspects de la situation des pieds noirs en pays gardois. Et d'ailleurs, ça doit être vrai pour la France entière, puisqu'il y a une rumeur extrêmement prégnante que j'appellerais la rumeur du verre d'eau. Lorsqu'on interroge des gens d'ici, surtout s'ils ont fait la guerre d'Algérie ou s'ils sont dans l'entourage de ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, il arrive très vite l'information selon laquelle les pieds noirs faisaient payer le verre d'eau ou l'eau aux militaires du contingent. C'est dire à quel point ces gens ne sont pas fréquentables, si vous voulez. Et donc ça m'a beaucoup impressionné.
Et cette rumeur continue à courir encore ?
Cette rumeur, dès que vous interrogez, enfin moi j'interroge, je travaille sur le pays nîmois, hein, j'ai posé la question une centaine de fois, l'information ne circule pas, mais si vous posez la question, vous allez entendre cela extrêmement souvent. Et alors j'appliquais évidemment les méthodes dégagées de l'analyse de la rumeur de Nîmes. Est-ce que ça vous est arrivé à vous ? Ah non, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à un ami. Est-ce qu'on peut retrouver cet ami ? Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'amis qui sont morts, qui sont partis aux États-Unis, qu'on a perdu de vue, avec lesquels on s'est fâché, etc. Donc il est très très difficile de retrouver la personne concernée.
Et on peut lancer un appel à nos auditeurs, d'ailleurs, qu'ils nous appellent sur notre numéro de téléphone ou qu'ils nous écrivent ou qu'ils nous envoient un mail, donc un courriel sur notre site internet, justement, parce que ça pourra peut-être vous servir dans vos propres travaux, s'ils ont entendu parler justement de cette rumeur du verre d'eau, eh bien on peut vous transmettre au René Domergue leur récit ou leur contact. Merci en tous les cas à tous les deux d'être venus ici pour évoquer cette question des rumeurs liées aux inondations en particulier. Demain, nous reviendrons dans le débat historiographique, nous reviendrons sur des rumeurs d'ancien régime, c'est-à-dire dans un autre régime de l'information, avec en particulier des historiens comme Steven Kaplan. Merci à tous les deux. Et si vous voulez justement réagir à cette émission et nous transmettre peut-être des rumeurs dont vous auriez entendu parler, franceculture.com, rubrique les émissions, la fabrique de l'histoire, ou 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78.